Philosophie première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 21 janvier 1999 à Saint-Jeudard.
Est-ce que je peux dire que autonomie et vérité sont les fondements de la structure de la personne humaine, puisque aussi bien en éthique, de la vérité pour elle-même, autonomie et vérité sont présentes. Ce qu'il faut voir, c'est que nous cherchons à préciser quels sont les caractères propres de la personne humaine. Et nous avons précisé est un pouce, un comment. C'est très important de se rappeler ça. Parmi toutes les réalités que nous expérimentons, qui existent, seul l'homme est une personne. Quand vous voyez un chien très bien dressé, toujours derrière son maître, qui est capable de le défendre, qui est capable de faire des choses héroïques pour son maître. Il a faim, il a sa pitance là, et le maître, avec un certain désir d'autonomie, le défend de le manger. Il ne le mange pas. Il est en face du maître. C'est extraordinaire, hein? Pas beaucoup de novices qui feraient ça. Alors, ce chien n'est pas une personne. Il est bien dressé. Oh, très bien dressé. Il faut savoir, dans le dressage, qu'est-ce qui domine ? C'est l'éducation. Le fruit de l'éducation, c'est la personne. Saint-Jean, éducation. Donc tous ceux qui sortent de Saint-Jean, éducation, doivent savoir ce qu'est la personne humaine. Et la personne humaine n'est pas le fruit d'un dressage. Non, je cherche à voir les composantes de ce tout. La personne est un tout. Il y a des éléments divers. Et ces éléments doivent s'organiser. Alors, qu'est-ce qu'il y a de premier dans la personne humaine ? Dans ce tout d'une personne, d'un être humain. Il a un chiffre biologique unique. Personne ne pourra vous remplacer du côté de votre chiffre biologique. Personne. Vous êtes unique, là. C'est ça l'autonomie, c'est d'être unique. Quand vous êtes dans la série, vous n'avez pas d'autonomie. Vous êtes dépendant chez numéro 10. Avant moi, il y en a eu 10, 9, puisque je suis 10e. Et c'est ça, en premier lieu. Le chien, il est dans la série. Ça, c'est sûr. Il n'est pas autonome. La personne humaine implique l'autonomie de la substance. mêmes enfants. Les scolastiques ne l'ont pas beaucoup touché, parce qu'au fond, ils ne se sont jamais arrêtés à la personne. Regardez dans n'importe quel manuel scolastique macar, puisqu'il est affiché comme... regardez dans macar, personne humaine. Je crois bien qu'il y a très longtemps que je n'ai pas regardé, là, je peux peut-être dire une erreur. Et si c'est marqué, regardez ce qu'on dit sur la personne. C'est intéressant. Parce qu'on voit très bien qu'on ne s'arrête pas à ce problème comme un problème métaphysique, qui est une clé de voûte. C'est la clé de voûte de la personne. Autonomie substantielle. Radicale, indivisible. C'est l'élément dans l'ordre de l'être que je ne peux pas remplacer. Et c'est très satisfaisant, ça, de vous dire que vous êtes unique. Je ne peux pas vous remplacer. Irremplaçable. Intouchable. Toutes ces choses-là viennent de là. Tandis que la série, on voit très bien dans les voitures. Alors, la voiture a quelque chose d'individuel dans la série. Mais c'est individuel, c'est pas une personne. Et ça peut se remplacer. Il y a des numéros qui sont bons, des numéros qui sont moins bons. Tandis que la personne, c'est pas le fruit d'une série. C'est unique. Autonomie. Mais l'autonomie ne suffit pas pour la personne. Parce qu'au fond, ce qui est très curieux dans la personne, c'est que j'acquiers ma personnalité. Oh, c'est pas le souci dominant. C'est évident. Je n'entre pas à Saint-Jean pour avoir une forte personnalité. C'est faux. On entre à Saint-Jean pour aimer Dieu. Alors définir la communauté par cet élément de lutte, c'est faux. C'est pas juste. Autonomie, recherche de la vérité. Ah ! C'est l'être dans l'esprit. C'est l'autonomie dans l'esprit. La vérité vous libérera. Je sais très bien que c'est une parole évangélique. Mais après tout, Jésus a peut-être dit une parole intelligente, plus forte que celle de Solon, que celle d'Aristote. Il aurait été un excellent aristotélicien. Mais il avait autre chose à faire. De plus grand. Comment l'autonomie va impliquer, parce que mon être est lié à l'esprit, comment l'autonomie va impliquer une croissance? Je suis un être de plus en plus autonome, de plus en plus intouchable. Vous voyez dans quel sens je le dis? Mon individualité augmente. Il y a une croissance dans l'autonomie. Et elle se fait par la recherche de la vérité. C'est ça qui est de tout à fait particulier dans la personne humaine. C'est un fait que je constate et j'essaie de comprendre. Oui. Si vous voyez quelqu'un qui reste noué à 15 ans, ça arrive. Il ne grandit plus à partir de 15 ans. et continue de passer des examens. Mais dans sa vie personnelle, non. Il est noué. Il est embêtant. On a beau lui faire toutes sortes de piqûres, ça bouge pas. Il y a une recherche intellectuelle de l'intelligence qui s'est nouée. Et sa personnalité est nouée à cet âge-là. Normalement, on n'est pas noué à 15 ans. On n'est pas noué à 20 ans. On n'est pas noué à 30 ans. On n'est pas noué à 40 ans. Comment que ça se fait, ça? Ma personnalité augmente. Il y a une croissance. Mon autonomie est de plus en plus radicale et j'en ai conscience. Je suis lucide. J'en ai conscience dans le sens de lucidité. Je suis lucide là-dessus. Cette recherche de vérité qui me permet de maintenir cette croissance. Parce que si c'était pas la vérité, c'était un métier. C'était des sciences mathématiques. Très bien, je peux foncer, mais au bout d'un certain temps, c'est curieux. Ce métier que j'ai appris, qui au début m'a fait beaucoup de bien, ça a permis à ma main de rejoindre mon intelligence. Ou ça a permis à mon intelligence d'assumer ma main. Le potier. C'est ça le potier. Au début, vous voyez pas comment. Donc, ça a permis de m'incarner. Tout art artisanal me permet de m'incarner. Et c'est la poterie. C'est pour ça que c'est toujours l'exemple des anciens. C'est la poterie qui fait ça le mieux. C'est très beau le métier de potier. Il s'incarne dans une terre argileuse. Et ça lui permet de faire que ses idées passent par ses doigts, passent par sa main, à travers le contact de la matière. La matière n'est plus étrangère, elle est assumée dans l'œuvre que je fais. C'est ma matière. Mon corps, c'est bien ma matière. Mais il m'est imposé mon corps. Ben, vous faites de temps en temps des rêves, hein, comme quoi vous auriez pu être tout à fait autre chose, avec un atavisme tout à fait différent. Vous auriez été tout à fait autre chose. Vous avez rêvé là-dessus, c'est un rêve. Ça n'avance à rien. Parce que c'est purement d'imaginaire. Vous ne pouvez pas changer. Tandis que ce que vous pouvez faire, c'est de faire que la matière étrangère à vous devienne votre matière par l'art qui agit sur ce milieu tout à fait privilégié autour de vous, qui est cette matière extérieure à moi et qui devient mienne. Je me prolonge dedans. Et je comprends mieux cette alliance de l'esprit et de la matière. Je me réconcilie avec mon corps. Oh, curieux. L'œuvre d'art du potier vous réconcilie avec votre corps. Comme l'art culinaire. Ça vous réconcilie avec l'aliment. Parce que tous ceux, avant vous, d'être cuisiniers, étaient des imbéciles. Tandis que depuis que vous êtes là, vous faites des choses qui sont vraies pour moi. C'est merveilleux. Donc je me réconcilie avec l'aliment. Or se réconcilier avec l'aliment, c'est se réconcilier avec son corps. la première opposition que vous faites avec votre corps, c'est de ne plus vouloir manger. Je suis si bien les jours où je ne mange pas. C'est extraordinaire. Je deviens aérien. C'est quand même agréable. Tandis quand j'ai mangé, oh là là, comme c'est lourd. C'est encore c'est dans un petit sac. La nourriture, je mange tant. Il y a des personnes qui pèsent tout ce qu'ils mangent. Elles sont au régime. Elles sont droites. 200 grammes, 300 grammes. Très bien, c'est le régime. Mais quand c'est dans un petit sac, le régime, ça pèse moins lourd que quand c'est dans l'estomac. C'est curieux. Je comprends pas. Parce que dans l'estomac, ça devrait peser beaucoup moins. Et ça pèse plus lourd. Mais c'est réconciliation avec la matière. Dans un monde comme le nôtre, c'est très très important. Parce que notre philosophie n'a pas été assez réaliste. Elle a subi l'influence idéaliste de la séparation de l'âme et du corps. Alors quand on est en face de la séparation de l'âme et du corps, il y a deux solutions, ou trois solutions. Ou on tue l'âme, c'est ce qu'on fait ordinairement. Ou on tue le corps, c'est ce qu'on fait moins souvent. Ou on les réconcilie par l'art. La troisième solution, qui est la plus vraie, c'est pas la philosophie qui permet ça. C'est un réalisme dont je suis capable par un exercice artistique, où on fait quelque chose, où on réalise quelque chose. Alors, vous voyez, je constate que ma personnalité peut augmenter. Qu'elle augmente. Je constate que la recherche de la vérité me rend plus lucide dans mon autonomie. Je réfléchis sur cette autonomie. Et là, c'est extrêmement simple. Prendre des exemples très très simples pour comprendre la relation qui existe entre la connaissance de la vérité et votre autonomie. Je prends au point de vue politique. Nous devons voter pour des candidats. Si vous êtes en dehors de la politique, comme dans la vie religieuse, ça arrive. Puis on doit voter. Mais si on vote, on doit faire un acte intelligent. Et on doit faire un acte de vérité politique. Je ne connais rien. Alors je ne peux pas me mettre à essayer d'étudier la vie de tous les candidats. Il faudrait les voir. Il faudrait vivre avec eux. Je ne peux pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je demande conseil à quelqu'un qui est dans la politique avec qui j'ai confiance. Et puis, j'écoute ce qu'il me dit. Je suis donc dépendant. Si je connaissais ces hommes politiques, ce serait moi qui choisirais. Je serais indépendant. Mon autonomie grandirait. C'est très important de comprendre dans ma vie pratique, dans ma vie politique, dans ma vie artistique, combien la connaissance augmente mon champ d'autonomie, l'espace d'autonomie. Et quand je ne connais pas, je suis obligé d'être dépendant. Et cette dépendance, la meilleure, c'est l'amitié. Parce que être dépendant d'un ami, ce n'est pas grand-chose, comme dépendance, puisque l'ami est un autre moi-même. Alors avec un ami, ça va. Et ça va beaucoup plus vite. Parce que cet ami me dit, il me connaît, il sait bien. Et en fait, cette expérience, elle est faite tous les jours, constamment. On voit très bien que la connaissance dans tel domaine me rend libre, autonome. Et je peux à ce moment-là continuer ma vie. Et c'est moi qui me détermine. Alors que quand je ne connais pas, je suis dépendant. L'amitié permet de dépasser cette dépendance par l'ami, mais ça maintient quand même la dépendance lors de la connaissance. Je crois qu'il faut que tout ça soit vécu dans la réalité quotidienne. Et ça, c'est découvrir ce qu'est ma personne. Et ce cours sur la personne doit, pour chacun d'entre vous, découvrir par mode d'expérience ce qu'est votre personne, ce qu'est votre personnalité au niveau de l'être. Donc, je vois que mon autonomie progresse, peut progresser, et ça dépend de moi. Comment elle progresse, la recherche de la vérité? Ça, je crois que c'est une évidence. Et quand je vois des êtres qui se sont noués à 15 ans, ou à 16 ans, ou à 20 ans, ils se sont noués à cause de quoi? Mais ils se sont noués parce qu'il n'y a plus de recherche de la vérité. Alors ils se sont laissés d'être une remorque. Il y a des quantités de personnes qui sont des remorques. Et c'est pas très drôle d'être dans une remorque quand ça tourne tout le temps. Quand ça va tout droit, ça va. Maintenant, c'est pas commode. Il y a des quantités de personnes qui sont des remorques. Et la remorque, c'est juste l'inverse de l'autonomie. Il y a un manque d'autonomie. Et ce manque d'autonomie arrête le développement de ma personnalité. Ça, je crois qu'on peut le constater. Je réfléchis là-dessus, au plan philosophique, ce que nous faisons. Je réfléchis là-dessus au plan philosophique. Je vois que c'est la rencontre de la substance et de l'esprit. La substance au niveau de l'être, l'esprit au niveau de la vie spirituelle. La rencontre avec l'intelligence. L'esprit, pour moi, est premièrement recherche de vérité. Parce que je ne peux pas aimer sans connaître. Je ne peux pas être artiste sans connaître. Je ne peux pas nouer une amitié sans connaissance. C'est la connaissance qui est toujours première dans l'ordre de l'affectivité. Et donc, la première chose pour croître dans l'autonomie, pour être moi-même dans l'autonomie, c'est cette recherche de la vérité. Alors, objection. Est-ce que l'opinion ne pourrait pas remplacer la recherche de la vérité? Aujourd'hui, la télévision me permet d'avoir des informations, donc de connaître des opinions au plan politique. Quand je reçois tous les jours la télévision, j'ai un sac énorme d'opinions. Je peux les noter. Alors, est-ce que l'opinion ne va pas remplacer cette recherche de la vérité? Une question extrêmement importante aujourd'hui, parce que la plupart des personnes, des gens, s'appuient sur l'opinion. Quelle est la recherche philosophique aujourd'hui, la plupart du temps? On dit qu'on fait de la philosophie quand on essaie de connaître ce que Marx a dit, ce que Hegel a dit, ce que Thomas d'Aquin a dit, ce que Aristote a dit. Les opinions. Encore là, c'est des opinions très nobles. C'est pas l'opinion de du brave politicien qui, après les élections, sera réduit à se taire parce qu'il n'est pas passé. Tandis que s'il est passé, on lui a donné la parole. Alors il en profite. Et l'argent. Ce qui est quand même quelque chose. L'opinion. L'opinion n'augmente pas mon autonomie. C'est ça qu'il faut saisir. L'opinion n'augmente pas mon autonomie. Mon autonomie personnelle. Parce que l'opinion, ce n'est pas la vérité. Je m'appuie sur un autre dans cette recherche de la vérité. Et c'est cet autre qui est pour moi médiateur de vérité. C'est très grand l'opinion. Ça peut être très beau. Mais ce n'est pas cela qui augmente mon autonomie. Puisque je dois critiquer l'opinion des autres. L'opinion des autres, mais entre le réel des personnes humaines dont il s'agit et moi-même, un écran. Cette opinion peut être très bonne, elle peut être très mauvaise, elle peut être passionnée, elle peut être au contraire là pour réveiller. L'opinion n'est pas la vérité. Elle peut être vraie, mais elle n'est pas la vérité pour moi. Parce que la vérité pour moi, c'est d'être conforme à ce qui est. Il faut que je critique cette opinion pour savoir si elle est conforme à la réalité, si elle reflète le mieux possible, de la manière la plus parfaite, la réalité. La réalité politique, la réalité économique, la réalité artistique, la réalité théologique. Prenez le domaine philosophique. L'opinion d'un Bergson, comparer Bergson et Aristote, intéressant. Puis vous vous demandez, quel est le plus vrai? Donc vous critiquez son opinion par une autre autorité. Critiquer l'opinion de quelqu'un par une autre autorité, c'est ce qu'on appelle la dialectique. On s'appuie sur deux opinions en fonction de deux autorités. C'est très important, c'est très astucieux, mais ça ne me donne pas encore la vérité. Mais ça me libère. Je me libère de personne par Aristote. C'est constamment avec Maritain ce qu'il y avait. Personne a joué un très grand rôle pour Maritain. Ça a été son Jean-Baptiste. Sa voie d'accès à la recherche de la vérité. Et il ne connaissait pas Aristote. Et quand on lui disait, on comparait. Et voyez la différence entre l'opinion d'un Bergson, l'opinion d'un Aristote. Et c'est très intéressant à faire ça. On peut tous faire ça. C'est ça que j'appelle la topique historique. Et c'est très important. On n'a pas beaucoup de temps de le faire. Alors, il faudrait le faire de temps en temps. On voit tout ce qu'on a dit sur un sujet, toutes les opinions. Puis alors, on regarde ces opinions. En disant, ces opinions disent ça. Quel est le caractère de vérité de ces opinions? Quelle est leur dose vérité? une opinion éclaire l'autre opinion. Et petit à petit, ces deux opinions opposées, Bergson base toute sa philosophie sur l'intuition. Aristote base toute sa philosophie sur l'expérience. J'ai vu une fois à Fribourg, parce que ça m'intéressait, toute une année sur expérience-intuition. Qu'est-ce qui est plus fondamental, l'expérience ou l'intuition? Il y a des philosophies qui sont basées sur l'expérience. Il y a des philosophies qui sont basées sur l'intuition. L'intuition, c'est une relation. L'expérience, c'est ce qui est. Alors, vous comprenez tout de suite le degré de vérité que vous avez par l'expérience, par l'intuition. Et c'est ça que j'appelle la cuisine philosophique. C'est la cuisine philosophique, ça. Voir cette espèce de topic historique. Qu'est-ce que les gens ont dit ? C'est intéressant. C'est un respect que j'ai vis-à-vis de mes devanciers qui ont cherché la vérité. J'essaie de voir à quel moment ils se sont arrêtés et où ils se sont arrêtés. Et jusqu'où ils ont été. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Et c'est très important de faire ça. Et je vois encore une fois que, au-delà des opinions, il y a ce contact direct avec la personne humaine. Et j'essaie de comprendre ce qu'est la personne humaine, pas ce qu'on a dit de la personne humaine. Les détails, polakos, sur la personne humaine. Ce qu'on a dit de multiples façons sur la personne. Et c'est très intéressant de comprendre justement ce legetai polakos qu'Aristote applique avec tant d'astuces. Le legetai, c'est pas l'être. C'est l'être digéré par l'intelligence de quelqu'un. Le legetai, ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on a dit sur la personne? Donc, ceci, c'est pour vous montrer l'importance de la recherche de la vérité qui vous libère. Quelqu'un qui recherche la vérité est libre. Est libre. Il n'est pas tout de suite, mais il tend vers la liberté. Parce que la réalité que je cherche à savoir ce qu'elle est toujours plus riche que ce qu'on a dit de la réalité. Il y a là une conviction extrêmement forte de comprendre que ce qui est antérieur à ce qu'on a compris de cette réalité. Ce qu'on a compris de cette réalité, on s'appuie sur l'intelligence des hommes. Ce qui est, je m'appuie sur la sagesse du Créateur. Saint Thomas dit admirablement dans son traité. C'est de la théologie, mais c'est intéressant. Dans une topique historique, saint Thomas dit admirablement que le Christ n'a pas eu de maître. Jésus n'a jamais vécu d'opinion. Il a toujours vécu d'expérience. Et c'est pour ça que Jésus peut dire à Pilate, dis-tu ça de toi-même, l'expérience. Ou un autre te l'a dit, l'opinion. C'est dit avec netteté. Et il dit ça devant Pilate, important à un moment critique dans sa vie, au point de vue humain, au point de vue philosophique. C'est critique. Il sait que Pilate a, dans son autorité, dans son pouvoir, de le libérer ou de ne pas le libérer. Et quand Pilate dit, tu es le roi des Juifs, et c'est la royauté, vous voyez, c'est intéressant du reste, à l'égard de la royauté, donc à l'égard du pouvoir, de l'autorité. Et saint Thomas dit, avoir pour maître la réalité existante, c'est le mode d'enseignement le plus noble. Avoir un maître humain, c'est toujours se considérer comme inférieur à lui. Ce qui fait comprendre comment, aujourd'hui, où on vit dans un climat d'autonomie orgueilleuse, combien c'est difficile d'accepter l'autorité d'un maître. On voudrait n'accepter comme autorité que la réalité d'être autodidacte. C'est sûr, c'est plus parfait de n'accepter comme recherche de la vérité, comme mon expérience. Mais, attention, humblement, je dois reconnaître qu'il y a avant moi des gens beaucoup plus intelligents que moi. Et reconnaître qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi, c'est accepter de recevoir leur opinion. Ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Je prends comme maître Aristote parce que je sais qu'il a cherché la vérité. Et que parmi les êtres humains, je me souviens de cette parole de le professeur Bourgeois. Quand j'ai eu l'audace de lui poser la question, pourquoi avez-vous pris Hegel comme maître ? Il m'a simplement dit, parmi tous les modernes, j'ai trouvé que c'était le plus intelligent et le plus proche de la vérité. Et je trouverais quelqu'un de plus intelligent et de plus proche de la vérité, c'est lui que je prendrai. Alors je dis, est-ce que vous ne croyez pas qu'Aristote, c'est Hegel lui-même qui le reconnaît, est plus proche de la vérité? Il m'a dit, je crois. Mais je ne sais pas assez le grec et je ne peux pas me fier aux traductions. Parce que ces traductions sont faites par des gens qui ne connaissent pas Aristote en profondeur. Et alors il a ajouté, je voudrais que la communauté Saint-Jean ait comme premier travail des traductions philosophiques d'Aristote. Je trouve ça très beau, c'est d'une honnêteté merveilleuse. Mais toujours cela dans cette recherche de la vérité. Si on est axé dans cette recherche de la vérité, on s'aperçoit comme c'est merveilleux. Alors, vous voyez donc, c'est la première chose, il faut comprendre que la recherche de la vérité est la source de la croissance de mon autonomie. J'espère que vous le voyez maintenant, que c'est évident pour vous. Source de croissance. Alors, est-ce que c'est le fondement ? Je ne dirais pas que c'est le fondement. C'est plus source de croissance. Je reviens tout le temps à cette recherche de la vérité pour que ma personne progresse, pour que je sois de plus en plus un être spirituel. actuelle et que je ne dégringole pas dans une autonomie matérielle, le marxisme, et que je cherche la vérité de plus en plus. C'est la première chose que j'affirme. Deuxième chose, comment doit se faire cette recherche de la vérité? Puisque si je vois que c'est la voie royale, ben il faut y aller tous, quoi. Il ne faut pas perdre de temps. Alors comment? C'est là le point de vue plus difficile. Jusque-là, on était en critique. On constatait ce qu'on voyait. Et c'est facile de constater ça par rapport à nous-mêmes. Un examen de conscience de notre propre personnalité. Quel est le degré d'intensité de notre personnalité? Il faudrait un petit appareil. Et le rendre permettrait que ceux qui sont arrivés au degré H peuvent faire profession. On n'en est pas là, hein, heureusement. Parce que la profession est d'ordre surnaturel, d'ordre chrétien. Et elle se mesure non pas par le degré d'autonomie qu'on a, mais par le désir d'aimer Dieu et le prochain. Alors voyez, c'est intéressant de voir tout de suite cette bifurcation. On n'est pas, premièrement, une école de perfectionnement de notre personnalité. On est, premièrement, une école de sainteté dans l'humilité. Donc, la recherche de la vérité, ah, attention, est-ce que c'est ultime? Non. C'est indispensable. Mais c'est pas ultime pour un chrétien. Nous ne sommes pas, premièrement, ici, pour une recherche de vérité. On est, premièrement, ici, pour une recherche de sainteté chrétienne. Jésus a dit, je suis venu pour un témoignage à la vérité, je sais. Cette recherche de la vérité, et la condition nécessaire à la sainteté. Et que tout manque de recherche de la vérité empêche cette recherche de la vérité. Mais c'est pas cette recherche de la vérité qui la mesure de ma recherche en tant que chrétien, en tant que moine, en tant que religieux. Ce serait un formalisme spirituel qui deviendrait terrible. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Parce que après la recherche de la vérité, on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a que la recherche de la vérité? Non. Il y a la capacité d'aimer. Alors, dans cette recherche de la vérité, c'est ton recherche de la vérité qui est ordonnée à libérer ma capacité d'aimer, qui est ordonnée à se mettre de plus en plus proche de l'attraction profonde. Cette recherche de la vérité, comment peut-elle se faire? C'est une recherche. Donc, il y a un point de départ et il y a un terme. Et une recherche. recherche n'est vraie que lorsque je suis conscient de son point de départ et de ce terme. Surtout une recherche de vérité qui demande cette lucidité. Il faut donc, pour la recherche de la vérité, en premier lieu, l'éveil de mon intelligence. Je suis dans un monde qui ne sait plus ce qu'est la vérité. Pour des quantités de personnes, la recherche de la vérité est impossible aujourd'hui. Parce que c'est tellement complexe, la vérité, que cette recherche de la vérité est impossible. Il faut donc, en premier lieu, découvrir l'éveil de l'intelligence. Puisque la vérité est la qualité de mon intelligence. La qualité propre de mon intelligence. Une intelligence vraie, c'est une intelligence parfaite. Mon intelligence, dans le monde d'aujourd'hui, est très très souvent alourdie par une quantité d'opinions diverses. Et on a une peine énorme à dépasser ses opinions. Donc la dialectique historique et à découvrir la petite voie de l'intelligence. C'est très difficile aujourd'hui de réveiller devenir de ce monde physique.